imaginez un instant une économie qui décide de subventionner ses propres agriculteurs avec de l'argent public pour qu'ils expédient leurs marchandises le plus loin possible. Et tout ça en tournant le dos à son voisin le plus riche et le plus proche.
C'est totalement contre-intuitif, en fait.
Complètement. Sur le papier, ça ressemble même à une aberration économique pure et simple. Pourtant, c'est très exactement la stratégie assumée par le Maroc au printemps 2026. Et c'est le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui.
Une exploration qui s'annonce assez dense, d'ailleurs.
Oh que oui. Parce que nous plongeons aujourd'hui dans une édition extrêmement riche du magazine Ecobusiness de mars 2026. Et la mission de notre décryptage secession, c'est vraiment de comprendre un métabolisme économique qui semble faire un grand écart permanent.
C'est le mot. Un vrai grand écart.
D'un côté, on a des ambitions mondiales qui donnent le vertige. Et de l'autre, on a des défis internes presque banals, genre le pharmacien du coin qui attend d'être payé.
Et c'est justement ce grand écart qui force à repenser nos grilles de lecture habituelles. On a souvent tendance, en macroéconomie, à analyser un pays soit par le prisme de la grande géopolitique, soit par celui du pouvoir d'achat quotidien.
Ouais, on sépare les deux en général.
Exactement. Mais les sources que nous avons sous les yeux aujourd'hui refusent cette séparation.
Alors c'est quoi la clé pour déchiffrer tout ça ?
En gros, c'est d'observer ce que l'on pourrait définir comme une résilience sous tension.
Une résilience sous tension, d'accord.
C'est un système qui encaisse des chocs mondiaux très violents, tout en tentant, en temps réel, de recâbler sa propre plomberie interne.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Commençons par cette fameuse résilience.
Allons-y.
Avant de regarder ce qu'un pays fabrique ou ce qu'il exporte, il faut voir comment il tient debout quand le vent souffle. Et en ce moment, sur le plan géopolitique, ça souffle très fort.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Pourtant, on lit dans de documents que les prévisions de la Banque centrale marocaine, donc Banque Al Maghreb, elles affichent une croissance de 5,6% pour 2026.
Ce qui est un chiffre très précis.
Très précis et surtout, il est en décalage total avec le Fonds monétaire international. Le FMI, lui, il est beaucoup plus frileux, il s'arrête à 4,9%.
C'est une vraie différence, oui.
Du coup, en tant qu'analyste, qu'est-ce qui explique ce décalage d'optimisme ?
La différence, elle réside surtout dans la lecture des précipitations d'une part et de la mécanique interne de l'investissement d'autre part.
Ok, donc la pluie joue un rôle.
Un rôle majeur. La Banque centrale intègre un rebond spectaculaire de 14,4% de la valeur ajoutée agricole.
Ah oui, quand même.
Oui, et c'est directement lié à une pluviométrie qui a littéralement sauvé la saison. Mais attention, la pluie ne fait pas tout.
Ce serait trop simple.
Exactement. Ce qui retient vraiment l'attention des analystes ici, c'est la croissance non agricole. Elle se maintient à 4,5%.
Et ça, ça vient d'où ?
Cette partie-là de l'économie, elle est propulsée par un effort massif d'investissement public. C'est vraiment ce moteur de fond qui permet à la Banque centrale d'afficher une telle assurance face au choc extérieur.
Et c'est là que les documents deviennent fascinants, je trouve. Parce qu'ils montrent comment la Banque centrale analyse les tensions Moyen-Orient.
C'est très clinique.
C'est d'une froideur absolue. Il n'y a aucune émotion dans leur rapport. Pour eux, un conflit mondial, c'est juste une série de variables économiques.
Principalement, un risque d'augmentation de la facture énergétique.
Voilà. En lisant ça, j'ai cette image d'un navire avec une quille extrêmement lourde. Une quille formée par le secteur bancaire et l'agriculture. Quand la tempête frappe, le navire tangue violemment. D'ailleurs, la place boursière de Casablanca, le MASI, a perdu 10% en seulement deux séances à cause de cette nervosité internationale.
Ouais, une chute brutale.
Mais le navire refuse de chavirer. L'inflation est prévue à seulement 0,8% cette année. Ils appellent ça un simple effet transitoire.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette chute boursière de 10% mérite qu'on s'y arrête vraiment.
Pourquoi ça ?
Parce qu'elle révèle l'immaturité technique d'un marché qui est pourtant très solide. La bourse locale aujourd'hui, ce n'est plus un îlot coupé du monde.
Elle est connectée.
Elle est interconnectée. Et elle réagit aux mêmes peurs que New York ou Londres.
Ok.
Si elle a pu absorber une telle baisse sans s'effondrer totalement, c'est grâce à la nature même des entreprises qui la composent. Le marché est dominé par des banques systémiques et des holdings très diversifiés.
Qui agissent comme des poids lourds stabilisateurs, en fait.
C'est exactement ça. Mais en revanche, le vrai problème mis en lumière par nos sources, c'est l'absence d'amortisseurs techniques.
Alors, attendez. Quand on parle d'amortisseurs techniques pour une bourse, on parle de quoi concrètement ? On ne met pas des airbags sur des actions ?
Non, bien sûr. On parle d'instruments financiers qui permettent de gérer le risque autrement qu'en fuyant le marché, tout simplement.
D'accord.
Actuellement, quand un vent de panique souffle sur cette place, l'investisseur n'a qu'une seule option, vendre ses actions au prix du marché.
Ce qui accélère mécaniquement la chute.
Exactement, c'est l'effet boule de neige. S'il existait des marchés à terme, par exemple, un investisseur pourrait acheter un contrat qui fige le prix de vente de son action dans le futur.
Ah, je vois.
Ça le protégerait de la baisse sans avoir à se débarrasser de ses titres dans l'urgence.
Et ça, ils ne l'ont pas encore.
Pas de manière fluide. De la même manière, le prêt emprunt de titres permet de parier sur la baisse d'une action.
Ce qui amène de la liquidité, en fait.
Voilà, ça apporte des opinions contraires sur le marché. Sans ces outils de sophistication financière, la place Casablancaise est condamnée à subir des secousses brutales, même si ses fondamentaux sont excellents.
Donc, le navire est solide, mais on va dire que l'équipage manque d'outils de navigation sophistiqués.
C'est une très bonne métaphore.
Ce qui nous amène à la façon dont ce navire commerce avec le reste de la flotte mondiale. On a vu que la croissance hors agriculture est à 4,5%. Et pour générer ça, il faut s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales. Et là, le rapport d'EcoBusiness cite la Maison Blanche. Rien que ça.
Oui, les enjeux sont globaux.
Des officiels américains, dont Kevin Assett, placent le Maroc au centre de leur stratégie pour sécuriser l'approvisionnement en minéraux critiques.
L'enjeu derrière ces minéraux, il faut bien comprendre qu'il est existentiel pour l'industrie mondiale.
Existentiel vraiment, hein.
Actuellement, certains pays asiatiques contrôlent jusqu'à 90% du raffinage de ces ressources.
90%, c'est énorme.
Des ressources qui sont vitales pour les batteries électriques, les semi-conducteurs. Les États-Unis cherchent désespérément à briser ce monopole.
D'où leur intérêt pour le Maroc.
Exactement. Mais la subtilité ici, et c'est bien documenté dans nos sources, c'est que la stratégie marocaine ne consiste pas simplement à ouvrir des mines et à exporter de la roche brute.
Ils veulent faire plus.
L'ambition, c'est de capter la valeur ajoutée, raffiner sur place, fabriquer des composants, s'intégrer dans la chaîne technologique.
Ne plus se contenter d'une économie d'extraction primaire, quoi.
Tout à fait. C'est un changement de paradigme.
Mais du coup, pour expédier tous ces produits complexes, il faut des infrastructures logistiques hors normes.
Absolument vitales.
Et les sources soulignent que les ports marocains sont aujourd'hui les mieux connectés du monde arabe. On parle de 262,6 millions de tonnes traitées en 2025.
C'est colossal.
Le complexe de Tangemed, à lui seul, a brassé 11 millions de conteneurs, en équivalent 20 pieds. C'est une mécanique de précision gigantesque.
C'est un hub mondial à ce stade.
Ouais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Revenons à l'exemple de notre introduction, la fameuse subvention sur les tomates.
Ah oui, le grand paradoxe.
Le Maroc est le troisième exportateur mondial de tomates, avec 11% de part de marché. L'Europe, c'est le client roi. Elle en achète 577 000 tonnes.
Un marché captif presque.
Et soudain, on découvre cette nouvelle subvention de 750 dirhams par tonne. Une subvention qui est spécialement conçue pour exporter hors de l'Union européenne et du Royaume-Uni.
Pour cibler l'Afrique et les pays du Golfe.
C'est ça. Et c'est là que je pose la question pour notre public. Pourquoi payer 750 dirhams la tonne pour aller chercher des marchés plus lointains, alors qu'on a un géant économique juste à côté, à 14 km des côtes?
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la réponse devient évidente. En macroéconomie stratégique, le client unique est le pire ennemi de la souveraineté.
D'accord.
C'est le miroir exact de la stratégie américaine sur les minéraux critiques que nous venons d'évoquer. Ne jamais dépendre d'un seul acheteur ou d'un seul fournisseur.
Parce que sinon, on est coincé.
Exactement. Dépendre à 90% de l'Europe pour un produit agricole majeur, c'est s'exposer à un chantage politique ou réglementaire permanent. L'Union européenne modifie constamment ses normes phytosanitaires ou ses quotas douaniers.
Donc, cette subvention de 750 dirhams...
Ce n'est pas une simple aide au transport. C'est le prix d'une prime d'assurance.
Ah, vu comme ça, ça change tout.
En finançant la pénétration de nouveaux marchés lointains, l'État achète la garantie que ses agriculteurs ne seront jamais pris en otage par une décision bureaucratique prise sur un autre continent.
C'est l'achat d'une indépendance géopolitique à travers la diversification des routes, en fait.
C'est brillamment pensé, oui.
C'est fascinant de voir ça. On subventionne la tomate pour des raisons de survie stratégique, on négocie des minéraux avec Washington, on gère 11 millions de containers.
C'est l'hyper-sophistication.
Mais attendez, comment cette hyper-sophistication se traduit-elle dans la rue? Comment l'artisan, le petit commerçant ou la TPE au coin de la rue profitent-ils de ces flux de capitaux?
Et voilà, c'est précisément le point de friction majeur analysé dans les documents. La richesse est générée, la liquidité existe dans les banques, mais elle circule mal vers le bas.
Nos sources parlent de Banque Al-Maghreb qui a identifié un réservoir théorique de 450 milliards de dirhams.
qui pourraient être mobilisées pour ces petites entreprises, oui.
C'est le paradoxe du grand barrage, en fait. On a un réservoir immense de 450 milliards de dirhams d'eau, mais les petits tuyaux pour irriguer les champs, les TPE, sont bouchés à cause de la paperasse.
Et c'est une excellente image. Les banques ont l'argent, mais le problème, ce n'est pas la liquidité, c'est la bancabilité.
La bancabilité.
Oui. Une banque n'a pas le droit de prêter de l'argent à l'aveugle. Elle doit évaluer un risque. Or, une grande partie de ces très petites entreprises évoluent aux lisières du secteur informel.
Elles n'ont pas forcément de gros bilans bien propres.
Voilà. Pas de bilan comptable audité sur 3 ans, pas d'actifs immobiliers à donner en garantie.
Et face à ce manque de lisibilité, l'algorithme de la banque, il dit non.
Il bloque, tout simplement. Alors, pour déboucher ces canaux, les autorités déploient de nouvelles techniques. Nos sources mettent en avant le développement de systèmes de scoring.
Un peu comme pour le crédit à la consommation.
Exactement. L'idée est de remplacer le bilan comptable classique, souvent inexistant, par une évaluation comportementale rapide.
Et il y a aussi des systèmes de garantie, je crois.
Oui, portés par des institutions publiques comme Tamwilcom, qui s'engagent à couvrir jusqu'à 80% des pertes s'il préfait défaut.
Ce qui est énorme pour assurer les banques.
Surtout que ça vise notamment à encourager l'entrepreneuriat féminin, qui est un levier de croissance clé.
Mais là où l'ironie est totale, je trouve, c'est quand on compare cette difficulté à prêter à un petit entrepreneur avec ce qui se passe dans la haute finance de marché.
Le fameux contraste.
Oui, enfin. Le magazine détaille une opération de titrisation automobile pour une société de crédit, la SOFAC. L'autorité des marchés a validé le fonds FT Automobility pour 659 millions de dirhams. Et ça s'est bouclé en 3 jours de souscription.
C'est foudroyant.
Comment le système financier peut-il être aussi fluide pour des voitures et si grippé pour des entreprises locales qui créent de l'emploi ?
Eh bien, c'est le triomphe de la donnée standardisée sur la réalité complexe.
C'est-à-dire ?
La titrisation, c'est un mécanisme fascinant. La société de crédit rassemble des milliers de petits prêts automobiles accordés à des particuliers.
Ok.
Pris individuellement, ces prêts comportent un risque. Mais en les regroupant dans un immense panier mathématique, on dilue ce risque.
On lisse le tout.
C'est ça. Ce panier est ensuite découpé en tranches, transformé en obligations financières très complexes et vendu à de grands investisseurs institutionnels.
Parce qu'une voiture ou l'acheteur d'une voiture, c'est facile à analyser.
Le comportement d'un acheteur de voiture est prévisible, oui, et très bien documenté par les statistiques. Donc les investisseurs achètent ces obligations les yeux fermés.
Alors que la petite menuiserie du quartier ?
Son modèle économique est unique. Il est irrégulier, il est mal documenté. L'ingénierie financière excelle pour traiter de la masse homogène.
Mais elle patine complètement quand il faut faire du sur-mesure pour la petite économie.
Voilà le paradoxe.
Donc la finance moderne réclame de la donnée claire pour fonctionner, ce qui me fait une belle transition vers l'économie réelle qui, elle, réclame des infrastructures physiques.
Un autre défi colossal.
Et nos documents mettent en lumière un secteur qui pousse ces infrastructures dans leur retranchement absolu, le tourisme.
Les chiffres sont impressionnants de ce côté.
L'année 2025 a pulvérisé tous les records. Ça a généré 894 000 emplois directs.
La feuille de route a été largement dépassée.
Oui. La stratégie nationale veut d'ailleurs désengorger les pôles traditionnels comme Marrakech et Agadir. Mais il y a un chiffre dans cette pile de rapports qui m'a provoqué une véritable dissonance cognitive.
Je vois très bien duquel vous parlez.
Quand on met ces chiffres côte à côte, pour ceux qui nous écoutent, on a 894 000 emplois touristiques d'un côté, qui dépendent de grands hôtels, de piscines, de complexes.
Mmh.
Et de l'autre, le chiffre de la disponibilité en eau du pays. 620 mètres cubes par habitant et par an.
Ce qui est très bas.
Pour situer, le seuil mondial de pénurie critique est à 1000 mètres cubes. On est largement en dessous. N'y a-t-il pas une collision frontale annoncée entre cette manne touristique et l'assèchement du pays ?
C'est une vraie question de fond. Cela soulève un point important. La croissance ne peut plus être aveugle aujourd'hui. C'est la limite physique du modèle. Il est impossible de continuer à pomper de l'eau sans compter. C'est pour cela que l'ONE, l'opérateur national, investit massivement.
Mais pas que dans des barrages.
Non, dans le logiciel. Nos sources mentionnent une enveloppe de 123 millions de dirhams débloqués pour un cabinet, Waman Consulting, afin de concevoir une stratégie d'eau intelligente et digitalisée.
Une eau digitalisée ?
L'objectif est de cartographier capteur par capteur l'utilisation de chaque ressource hydrique. En utilisant des bases de données prédictives, le système pourra anticiper les baisses de pression ou détecter les fuites en temps réel.
C'est la donnée technologique qui vient sauver la ressource naturelle, en gros.
Exactement. C'est le prix à payer pour soutenir ce tourisme de masse.
Et j'imagine que cette mise à niveau de l'infrastructure s'applique aussi au transport pour tous ces visiteurs.
Complètement. Déplacer presque 1 million de travailleurs et des millions de touristes sur des autoroutes saturées, ça annulerait tous les bénéfices par le coût écologique.
Bien sûr.
C'est pour cela que l'ONCF, les chemins de fer, reçoivent des financements majeurs. 65 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement sur un total de 265 millions pour moderniser 2300 km de réseau.
Parce que le train pollue moins.
Le rail émet 80% de CO2 en moins que la route.
Ajoutez à cela la refonte complète de l'aéroport Mohamed V par un grand cabinet d'architecture.
La logistique, c'est vraiment le nerf de la guerre.
C'est la condition sine qua non de la croissance.
Nous avons donc un pays qui jongle avec les minéraux stratégiques, qui gère des flux maritimes pharaoniques, qui invente de l'ingénierie pour des crédits auto et qui digitalise l'eau.
Un tableau assez impressionnant. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un dossier spécial dans ces sources qui montre que l'économie a parfois des angles morts assez inquiétants.
Oui. Plongeons dans le dossier de la santé.
Le circuit pharmaceutique. Le médicament n'est pourtant pas un commerce ordinaire. Il a un rôle de souveraineté et de maillage territorial. Ça a été prouvé durant le Covid et le séisme d'Alaous.
Le réseau des pharmacies est souvent la dernière ligne de défense sanitaire et sociale.
Sauf que nos sources nous disent que la chaîne est sous tension extrême. C'est une vraie bombe à retardement. Marge et prix administrés par l'État, fragilité des pharmacies de quartier.
Baisse de rentabilité des grossistes répartiteurs aussi.
Ouais, avec des retards de paiement toxiques et le Maroc qui part à ouvrir le droit de substitution pour les médicaments génériques.
C'est un secteur qui cristallise toutes les contradictions du système en ce moment.
Archaïque pour un produit aussi vital.
Ça nous ramène au cœur de la doctrine économique. Le système est à l'agonie sous le poids de l'administration, certes.
Donc la solution logique, ce serait de tout déréguler, de laisser le capitalisme assainir le marché.
Eh bien, le Conseil de la concurrence dit explicitement que le simplisme de cette ouverture brutale serait une erreur fatale.
Ah bon ? Pourquoi ?
Si on laisse faire le capitalisme pur, la loi de l'offre et de la demande, le résultat mathématique est connu.
Les petites pharmacies vont mourir ?
Voilà. Les officines des zones rurales, des montagnes, fermeront leurs portes au profit de méga-structures urbaines ultra-rentables.
C'est sûr que la pharmacie de quartier dans un petit village ne peut pas rivaliser avec un grand groupe.
Exactement. Du point de vue strictement capitaliste, ça serait plus efficace. Mais du point de vue de la santé publique, ce serait détruire un maillage social crucial.
Donc il faut réformer, mais sans dérégler brutalement.
Il faut digitaliser la traçabilité des médicaments et fluidifier les paiements sans casser le modèle territorial.
Ce qui nous amène à la synthèse de notre voyage conceptuel d'aujourd'hui, ce que ce magazine nous a permis d'observer, c'est l'anatomie complexe d'une croissance qui jongle sur plusieurs tableaux.
Tout est interconnecté, oui.
On part des minéraux critiques et des ports mondiaux, tout en essayant de déboucher les tuyaux du financement pour les TPE et de soigner sa propre chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.
C'est une résilience de chaque instant.
D'ailleurs, en reliant tous ces points, il y a une idée assez inédite, une pensée provocante qui émerge pour moi.
Je vous écoute.
On a vu que la digitalisation est utilisée pour suivre chaque goutte d'eau par l'ONEE. On a vu que le scoring financier de Banque Al-Maghrib permet de lire les risques des TPE. Et on a cette logistique incroyable à Tangemed.
Oui.
Et si, demain, l'intelligence des données logistiques portuaires et le scoring bancaire étaient fusionnés pour révolutionner la chaîne du médicament.
Ah, ce serait puissant.
Imaginez si la donnée devenait le remède ultime. On pourrait anticiper en temps réel les besoins sanitaires de chaque territoire et garantir des paiements instantanés. Ça guérirait l'économie administrée de la santé sans détruire la petite pharmacie de quartier.
C'est une excellente perspective. C'est l'essence même d'une économie qui réussit sa transition. Utiliser les outils du commerce mondial hyper moderne pour résoudre des fragilités sociales très locales.
Eh bien, c'est sur cette perspective que s'achève notre analyse du jour. J'invite notre public, tous ceux pour les esprits curieux qui nous écoutent, à méditer sur l'impact très intime de la macroéconomie.
De la tomate à la pharmacie ?
Exactement. De la tomate dans notre assiette, aux médicaments sur le comptoir. Tout est lié. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous et à très bientôt pour une nouvelle session.